Merci beaucoup à tous ceux qui se joignent à nous. Et si vous venez d'arriver, ben je vous souhaite joyeuse Saint-Valentin à tous. On parlait d'amour la première heure et des secrets des couples qui durent. Et là, vous êtes nombreux à... On fait comme un concours de longévité, finalement. Il y a Éric qui m'écrit, qui est avec son chum depuis quasiment 19 ans maintenant. Ils sont père d'un fils qui sera bientôt majeur. Il y a beaucoup de gens là qui ont du 30, 40, 54 ans ici que je vois. Là. Guy, 54 ans, marié le 15 mai prochain. La recette, confiance, respect l'un envers l'autre. Ne pas crier, sacrer ou s'envoyer promener avec des mots peu gentils. Et jamais on se couche sans se dire bonne nuit et s'embrasser. Alors voilà, dans les, vous pouvez réécouter bien sûr cette émission. La deuxième heure est consacrée à l'alimentation beaucoup, parce que c'est vrai qu'aussi aujourd'hui, il y a bien des gens qui vont aller manger au restaurant ou il y en a qui vont se faire des petits plats pour l'être cher. Je sais pas vous, mais des fois, on se dit, moi, qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'on mange? Et là, il y a évidemment, il y a eu des choses qui ont été dites dernièrement sur les aliments ultra transformés, entre autres, comme quoi, bon, les gens étaient encore très enclins à s'en procurer. Et quand on regarde le panier alimentaire, il y a plus du tiers du panier d'alimentation, de ce qu'il y a dans votre panier d'épicerie, qui est composé d'aliments ultra transformés. Alors, je voulais en parler avec des spécialistes, puis voir aussi de votre côté, vous qui nous écoutez, je voulais voir si vous essayez de faire un effort pour en prendre moins, en acheter moins des aliments ultra transformés. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Est-ce que ça vous préoccupe? On va en discuter avec Lynn Gosselin, qui est cofondatrice du mouvement Dux. Vous avez sans doute entendu parler de leur gala qui récompense les meilleures entreprises agroalimentaires au Québec. Elle est présidente chez Edicom. Bonjour, Madame Gosselin.
Bonjour Isabelle, ça va bien?
Ça va très bien. Catherine Lefebvre est nutritionniste. Elle a écrit entre autres le livre Sucre, vérité et conséquences, auquel d'ailleurs elle est en train, sur lequel elle est en train de travailler encore.
Ben oui, tu vas nous faire un petit scoop.
Voilà, tu es en train de le remettre à jour.
Oui, exactement.
Toujours autant de sucre finalement, ça va être ça?
En fait, y a quand même des bonnes nouvelles. C'est ce qui m'a demandé beaucoup de travail. C'est que finalement, y a des nouvelles études qui sont sorties. Il y a des nouvelles données comme on a vu là, par rapport à la consommation de sucre. Mais il y a aussi des grands mouvements au niveau des gouvernements qui ont changé. On peut penser au nouveau guide alimentaire canadien, mais ailleurs dans le monde aussi. Donc, moi, ça m'a donné beaucoup de travail, mais c'est quand même des bonnes nouvelles.
La nouvelle qui est sortie là, dernièrement de l'Institut national de santé publique du Québec, qui dit que le tiers du panier d'épicerie des Québécois serait rempli de produits ultra transformés. Mm-hmm. Est-ce que ça t'inquiète, toi, Catherine, comme nutritionniste?
Ça m'inquiète, mais ça ne m'étonne pas. Parce que quand on regarde, je veux dire, on fait tous l'épicerie, là, peu importe la bannière, quand on regarde dans les divers rayons, c'est sûr qu'on a quand même beaucoup d'aliments qui sont ultra transformés, qu'on soit dans le bio, qu'on soit dans le sans gluten, qu'on soit dans les boissons sucrées, aliments surgelés, qu'on sait que c'est très transformé. En fait, dans tous les rayons, on peut quand même trouver des aliments qui sont ultra transformés. Alors, qu'on ne reconnaît plus. On ne sait pas trop faire la différence. Là. C'est-tu transformé
voilà.
ou c'est ultra transformé?
Mais justement, qu'est-ce que c'est, Lynn Gosselin? Vous avez donné une conférence sur les aliments ultra transformés dernièrement à Dux. Est-ce qu'on peut les définir pour nos auditeurs? Qu'est-ce que c'est qu'un aliment ultra transformé?
Un aliment ultra transformé, c'est un aliment dans lequel on retrouve une quantité souvent plus élevée de sel, de sucre ou de gras ou des agents de conservation qui peut aider cet aliment-là à se conserver ou avoir des propriétés différentes. C'est ce qu'on dit des aliments ultra transformés en général, où il faut faire attention. Je pense que c'est que l'offre alimentaire veut s'améliorer de beaucoup, et quand on parle justement des aliments ultra transformés, ben le consommateur a peut-être de multiples choix qu'il peut faire à travers la panoplie d'aliments qui se trouvent à sa disponibilité. Et c'est là où devient le défi du consommateur de faire des bons choix. Mm. Je pense que le consommateur s'y tourne vers ces produits-là parce qu'on parle beaucoup dernièrement de la charge mentale. Donc, ces produits-là deviennent des facilités pour eux de cuisiner à la maison.
Mm. Est-ce que ça vous surprend? Vous le saviez sans doute, le tiers des produits ultra transformés se retrouvent dans le panier d'épicerie des Québécois?
Non, ça, moi non plus, ça me surprend pas parce que, comme je le mentionnais, je pense que les consommateurs se tournent vers des solutions pour diminuer leur stress, leur fatigue, leur charge mentale. Donc, ces produits-là deviennent une solution, tout comme il y a une statistique qui est sortie au niveau des milléniaux en 2017 qui ont été au restaurant plus de 236 fois dans l'année. Fait que les gens cherchent à se tourner vers des solutions peut-être plus faciles, plus rapides pour se décharger. Maintenant, je pense que la beauté, c'est qu'on se retrouve avec un offre qui s'améliore. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler de plus en plus. Là.
Incroyable quand même, le restaurant. Là. C'est fou, chez, hein? Chez les oui. plus jeunes, là, chez les moins de 30 ans, on le voit. Là. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'ils ont vu leurs parents commander de la pizza le vendredi ou parce que je ne sais pas comment ça s'explique, ça, autant de jeunes qui vont manger au resto. Parce que là, si on n'a pas le contrôle de ce qu'on met dans notre bouche, c'est bien quand tu vas au resto. Là. Mm-hmm. Tu sais, tu n'as pas d'étiquette.
Non, absolument. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi une partie d'expérience là-dedans. Je pense que, tu sais, oui, il y a le côté... Le côté peut-être qu'on cuisine moins, on prend pas le temps de se faire des lunchs.
Facilité, comme Lynn Gosselin.
Oui,
tout à fait. Lynn, 236 fois, c'est quand même beaucoup. Mais bon, vous travaillez beaucoup avec les entreprises agroalimentaires. Est-ce qu'elles sont conscientes, justement, que quand on dit ultra transformé aujourd'hui, on a comme un... Là, j'ai une phase de dégoût, mais
ouais,
c'est pas ça.
C'est plus
une aversion. Oui, une petite aversion. En tout cas, personnellement, je suis sceptique. Je regarde ça. Moi, ça peut être 5 minutes. C'est long, 5 minutes. Devant, tu sais, à lire une étiquette puis à me dire, écoute, je l'achète-tu ou je ne l'achète pas? Lynn, là-dessus, puis Catherine.
Oui.
Ben effectivement, puis c'est là où plus on appelle ça, excusez l'anglicisme, le clean label, plus ouais. L'étiquette devient simple en ingrédients et simple en message qui est transféré au consommateur, plus le choix va devenir un peu plus simple pour le consommateur de s'y retrouver. C'est là-dessus qu'on pousse beaucoup l'industrie à être transparent, à s'améliorer, à devenir avec une offre plus simple.
Mais par rapport à ça, Lynn, aussi, je trouve que c'est intéressant le côté de la charge mentale. C'est vrai qu'on a souvent voulu se tourner vers des solutions plus faciles, de dire, bon, c'est bio, c'est naturel, je sais que je fais un bon choix. En même temps, quand on entre dans les aliments ultra transformés, moi, je trouve que la charge mentale, elle est là. Parce que quand on est conscient, on se dit, ah, je vais faire un meilleur choix, et qu'on commence à décortiquer une étiquette, là, ça devient compliqué quand on achète des aliments ultra transformés. Quand on achète des aliments plus de base ou assez simples, où là, on va avoir 1-2 ingrédients que si on faisait la recette à la maison, on utiliserait la même chose. Ou si on se faisait du yogourt à la maison, ben c'est du lait avec des bactéries, puis à un moment donné, ça fermente, puis ça fait du yogourt. Mais dans la gamme de yogourts disponibles à l'épicerie, on a des yogourts ultra transformés. Je prends, tu sais, des yogourts en tube, par exemple, où là, on va avoir une longue liste d'ingrédients. On peut avoir un aliment peu transformé, super intéressant, du lait, du yogourt. Du yogourt, c'est transformé.
Ouais.
C'est peu transformé. Mm-hmm. Il y a c'est deux ça. Ingrédients, là, c'est pas ça. Compliqué.
Là, on parle du ultra transformé. Exactement. C'est intéressant. Nommez-moi des exemples, mettons. Catherine, tu viens de dire du yogourt trop...
En fait, c'est ça. Puis dans toutes les gammes, il y a ça. T'sais, on peut avoir une tomate, par exemple.
Ouais.
Bon, là, l'industrie peut avoir fait de la sauce tomate pour nous. Mais tu sais, si on faisait de la sauce tomate à la maison, on aurait quoi? Des tomates, peut-être un peu de sel, peut-être un acide là, pour diminuer le pH puis avoir une conserve qui
l'huile
se conserve
d'olive.
Longtemps. Huile d'olive, basilic.
Un petit peu d'oignon, basilic, herbes de Provence.
Exactement. Donc ça, c'est peu transformé. Après, on a du ketchup. Où là, on va vraiment ajouter du sucre, ajouter du sel, ajouter d'autres des agents de conservation, des choses comme ça. On pourrait prendre du pain. On va avoir de la farine. La farine, ça, c'est comme notre ingrédient de base. On peut avoir un pain. Si on achète un pain à la boulangerie, on va avoir de la farine, de l'eau, de la levure, un petit peu de sel. Tu sais, si on se fait une recette de pain à la maison, peut-être un petit peu de sucre pour notre levure, là, mais c'est tout.
Mais ce qui devient compliqué aussi pour le consommateur de se retrouver, c'est que si je reprends l'exemple de la sauce, il y a des nouvelles sauces qui sont sur les tablettes maintenant qui sont vraiment avec des ingrédients de base et qui n'ont pas du tout d'agent de conservation d'ajouter.
Absolument.
Je ne veux pas en nommer une, mais j'en ai une en tête.
Oui, moi aussi.
Et qui devient à ce moment-là?
Une qu'on devrait acheter, là?
Ben, une oui. que... Ben, nommez-la, d'abord. Mettons qu'elle est faite par un chef qu'on aime bien, là. Oui.
C'est du Ricardo? Mais, c'est la sauce à Ricardo?
La sauce à Stefano.
Ah, Stefano! Ben, oui. Ah, parfait, oui. Ben oui.
Et ça devient une alternative intéressante, mais c'est là où, à un moment donné, de s'y retrouver entre ce qui est ultra transformé, parce qu'il y a des sauces qui peuvent se retrouver dans la catégorie des ultra transformés à côté d'une sauce comme ça qui est très pratique.
Puis je pense que si on a un petit peu de connaissances en cuisine, je reviens à mon exemple de pain, mais c'est vrai que dans la sauce tomate, c'est vrai, là, il y a vraiment une gamme juste là. Mais notre pain, c'est que si j'achète un pain à la boulangerie où je retrouve à peu près les mêmes... Si j'ai déjà fait du pain à la maison, je sais qu'est-ce qu'il devrait avoir dans du pain, à peu près 3-4 ingrédients. Mais la plupart des pains à l'épicerie, c'est pas du tout ça. Là on a plus que 5 ingrédients, des agents de texture, de conservation, plus de sel, plus de sucre. Donc là, on n'a pas du tout le même genre de produit. Ça se peut que ça ne nous tente pas de faire du pain à la maison, c'est correct.
Tu sais qu'il y a de plus en plus de monde qui en fait.
Oui, bien c'est, mm-hmm. ça. Là, c'est ça. Moi, je suis...
J'ai dit ça l'autre jour, je voulais me mettre à faire mon pain pour essayer. Ouais. Là, j'ai commu 50 Québécois qui m'ont écrit pour me dire « Hey, moi, je fais mon pain, je peux te dire comment? »
Ben c'est le fun, mais ça, c'est moi, je pense que ça peut être une... Je pense que on parle beaucoup de cuisiner davantage, ouais. et danser, tout ça, mais je pense que si on peut voir la cuisine aussi, même si on ne fait pas tout à la maison, mais au moins, c'est certains petits trucs. Moi, faire du pain, pour moi, c'est peut-être mon côté scientifique, puis quand j'étais petite, j'aimais déjà ça, mais... T'sais, là, comprendre comment ça lève un pain.
Faire, ouais.
J'aime ça. Je le fais pas tous les jours. Mm. Mais je trouve que c'est une activité, le fun.
Ouais.
Ça peut être une activité en famille. Puis ça veut pas dire qu'on se met justement la charge de dire, ben là, il faut absolument que je fasse mon pain tous les jours ou tous les deux jours parce que là, bon, je peux plus acheter du pain d'épicerie ou à la boulangerie. Mais au moins de comprendre comment ça se fait. Puis une fois qu'on a fait notre pain une fois, ben quand on regarde des ingrédients sur un pain pour mieux choisir un pain, ben on sait qu'est-ce qu'il devrait avoir dans du pain. Après ça, moi, ça ne me dérange pas que ce soit la boulangerie qui l'ait fait pour moi. Là. À un moment donné, c'est correct le côté pratique. Là, ça, c'est pas un problème.
Mais je trouve que, comme consommateur, qui faisons nos courses régulièrement, qui devons faire des choix, puis on n'a pas tout le temps là, de passer des heures à regarder des étiquettes, j'ai l'impression que la qualité de l'offre alimentaire, ça pourrait être pas mal mieux que ça.
Mais
là,
Lynn, j'aimerais ça t'entendre par rapport à ça, mais... Je pense que là, le défi devient vraiment intéressant pour l'industrie alimentaire parce que longtemps, on a joué sur « Ah ouais, c'est vrai, il faudrait manger plus de fibres, par exemple. » Donc là, on va ajouter des fibres de quelconque façon dans un aliment ultra transformé. Ou des oméga-3, ou bon, le gluten, il faut enlever ça. Fait qu'on a joué sur soit des ingrédients précis ou des nutriments précis. Et là, le consommateur est ailleurs. Il veut vraiment quelque chose, pas de moins pire ou pas de un peu mieux. Il veut quelque chose de vraiment mieux. Et donc là, on ne pourra pas juste afficher source de ci sans ça. On va vraiment vouloir, comme Lynn le disait tout à l'heure, une étiquette beaucoup plus simple que lorsqu'on va lire la liste des ingrédients.
Moi, plus que 3, là.
Ouais,
je commence
3,
à trouver.
Devient... 3, c'est sévère, Isabelle.
Oui, je suis sévère. Ouais, je suis sur le bord de la... Comment on appelle ça, là? Ceux qui sont vraiment raides sur l'alimentation. Moi, je suis... Mais moi, je veux qu'on arrête... Oui, quasiment, et merci, JC, peut-être. Mais c'est un gros mot, intégriste la bouffe. Mais comment on appelle ça, vous savez?
L'orthorexie.
L'orthorexie, bon. Ouais. Mais moi, j'aimerais qu'on arrête de rajouter toutes sortes d'affaires dans la bouffe, qu'on nous serve des trucs plus naturels.
Mm-hmm. Mais en même temps, oui, ça, c'est un souhait que tout le monde a. Mais de l'autre côté, l'industrie a aussi tout le côté innocuité alimentaire qui est très, très important. Fait qu'il faut être juste conscient de notre besoin en tant que société, de ce qu'on demande et comment on peut recevoir ça dans des conditions qui sont les meilleures aussi. Parce que c'est facile de dire, OK, on va enlever tous les agents de conservation, mais ça peut devenir extrêmement dangereux
tout
pour le consommateur sur certains niveaux.
Et vous avez raison, Lynn. Ouais. Et j'ai acheté un houmous la semaine dernière.
Ouais.
Je te racontais ça, hein?
Ouais.
Tu dis un petit houmous, une petite entreprise, tu dis je vais les encourager. Puis finalement, ben la date était encore bonne. La date de péremption était bonne, mais l'houmous, ça faisait comme... Il y avait dû
mais
avoir
chaud.
La date
chaud. De péremption, c'est jusqu'au moment... C'est quand l'houmous est fermé. Du moment où tu ouvres...
Non, mais je venais de l'ouvrir. Donc, il était encore bon. Je venais de l'acheter.
OK, OK, OK. Il n'était pas ouvert depuis.
Il n'était pas ouvert. Non, 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 non. Parce que là, j'en parlerai pas.
Oui, oui.
Ouais. Je dirais juste, fais ton frigo de temps en temps. Mais non.
Non,
je le fais. Non, mais là, c'était vraiment un problème. Puis là, il piquait tout de suite. Là, j'ai recraché. Donc, je me suis dit, bon. Puis des fois, on a l'impression que c'est l'industrie, là, la grosse compagnie d'agroalimentaire qui va nous bourrer de sucre, de sel, de gras. Or, des fois, les petites entreprises qui font... Tu sais, c'est peut-être pas... C'est pas un gage de salubrité de faire du jus dans ton sous-sol.
Ouais,
tu
non.
comprends?
Ben, puis aussi, comme Lynn le disait, tu sais, la réalité, puis c'est, ça, c'est vrai aussi, ça, c'est une question... À un moment donné, on a beau dire on veut des trucs plus naturels, plus simples, mais la demande, l'industrie se fait dire, OK, mais moi, tu m'arrives avec un produit, il faut qu'il dure 4 semaines sur les tablettes.
Ouais, c'est sûr.
Ben, à un moment donné, tu sais... Parce que c'est ça les attentes, c'est ça le standard, si on veut. Puis ça fait aussi en sorte que le consommateur, quand il achète son houmous ou peu importe c'est quoi le produit, bien, il ne veut pas que dans 3 jours, ça soit plus bon.
Oui, puis en même temps, ça devient compliqué quand on généralise aussi puis qu'on parle d'un discours, mettons, de ultra transformé. Je fais juste penser à la conférence, on faisait la distinction entre les lentilles en conserve puis une salade de lentilles faite par un fabricant.
Ouais.
Dans la lentille en conserve, on disait qu'il y avait du chlorure de calcium, de la DTA du sodique, de l'acide citrique puis une certaine quantité de sodium par 100 grammes. Fait que si on regarde ça, on l'achètera pas, la canne de conserve de lentilles. Mm. Alors que la salade de lentilles, qui, elle, serait peut-être plus considérée rapidement parce qu'elle est fabriquée, ultra transformée, elle contient seulement de l'acide lactique puis du sodium. Et là, le message devient difficile parce qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est difficile de lire les étiquettes, mais faut quand même que le consommateur a une responsabilité de le regarder davantage au lieu d'avoir un discours qui est trop généralisé. Et là, ben on perd la distance par rapport à nos choix. Et je pense que ça devient important de revenir sur cet élément-là. Là.
Tout à fait. Et Lynn, j'avais lu que si on les rince vraiment beaucoup, là, les lentilles en conserve, on se débarrasse quand même de pas mal de ces ingrédients que vous avez nommés. Est-ce que c'est vrai?
Tout à fait.
Oui?
Oui. Sauf que quand on regarde, mettons, si on se fie juste sur OK, mais je vais prendre la lentille en conserve, puis je rejette du revers de la main l'autre produit en me disant « Ouh, il est transformé », on fait une erreur.
Oui, je comprends. Mais c'est intéressant d'avoir leur juste là-dessus. Ça veut dire que c'est pas parce que l'aliment a été transformé qu'il a moins de valeur nutritive ou qu'il est moins bon pour la santé. On va revenir là-dessus. J'ai hâte d'entendre les consommateurs qui nous écoutent. Est-ce que vous faites attention à pas trop mettre d'aliments? On parle d'aliments ultra transformés, là. Ultra, donc, on vous aurait compris que c'est avec beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup de gras qui auront été beaucoup...
Avec des additifs.
Voilà, où il y aura eu des agents de conservation, des additifs, donner beaucoup de goût et tout. Bon, en même temps, il y a des choses qu'on consomme, on le fera pas nous-mêmes. Là. Mais dites-moi si vous faites attention à ça. Est-ce que c'est une valeur importante quand vous faites des choix alimentaires? Vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850 et bien sûr, sans frais, partout au Québec, le 1-866-790-9850. On s'interroge sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de Québécois, quand ils font l'épicerie, qui en mettent beaucoup de ces aliments ultra transformés, des produits transformés. Il y en a à peu près 1 sur 3 dans votre panier d'épicerie, selon ce que nous dit une récente évaluation de l'Institut, je l'avais ici.
L'Institut national de santé publique
voilà.
du Québec.
Merci beaucoup, Catherine.
Toujours là pour toi, Isabelle.
Merci, Catherine Lefebvre, nutritionniste. Lynn Gosselin de chez Dux est avec nous. Benoît nous écoute et j'imagine que ça vous fait réfléchir à vos choix alimentaires, Benoît, notre conversation.
Effectivement, juste à vous écouter, je trouve déjà que c'est complexe de comprendre tous les avenants et aboutissants.
Désolé, Benoît.
Pour moi, tout ce que j'ai fait dernièrement, dans les 6 derniers mois, ce que j'ai beaucoup changé, c'est l'idée, les ingrédients et tout, là. Ça, c'est pas aussi strict qu'Isabelle avec 3, là. Mais moi, j'ai beaucoup regardé le sodium, j'ai beaucoup regardé le sucre. Et ça m'a amené à faire des choix différents, que ce soit dans les céréales que j'achète, que ce soit dans les ingrédients au niveau des, comme on parlait des sauces à spaghetti tantôt. Pour moi, ça a été des choses où que des fois, je vais faire ma sauce à spaghetti avec une canette, tu sais, des tomates en canne, mais je vais regarder quand même combien de sel ils ont déjà mis dedans avant que moi j'en rajoute. Des points comme ça, je suis moins dans le benzap de je sais pas quoi qu'ils peuvent avoir rajouté, des choses comme ça, mais je suis plus là-dedans. Puis dernièrement, ce qu'on a fait comme commentaire, c'est on m'a dit que j'avais maigri. J'ai pas vraiment maigri, j'ai gardé le même poids, mais j'ai surtout, je pense, moins d'inflammation, donc j'ai moins l'air gros.
Tu sais. Je sais pas où vous êtes, mais en tout cas, il y a de la broue où vous êtes, Benoît. Merci beaucoup de ces commentaires. Marie-Pierre est avec nous. Bonjour, Marie-Pierre.
Salut. Moi, j'ai remarqué que comme adulte, c'est assez simple de faire une épicerie sensée dans les produits non transformés. Mais quand je rentre dans les allées pour mes enfants,
ouais.
Là, ça devient le bordel. J'ai l'impression d'avoir une offre qui est complètement sur-transformée. Ça devient...
Ouais.
J'ai l'impression que même dans les purées pour bébés, il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose de naturel ou d'accessible pour un panier moyen d'une famille qui n'est pas riche et qui n'est pas capable de s'offrir des produits québécois faits à la main par une grand-mère.
Ouais.
Donc, je trouve plus difficile dans l'offre familiale d'avoir quelque chose qui peut... Tu sais, un poisson au fromage, on va se le dire, là, c'est pas très bon pour la santé d'un enfant.
Ouais, c'est vrai.
Vous avez... c'est de lui dire, non, c'est pas normal que tu manges ça à tous les jours de ta vie quand c'est ce qu'on lui offre partout dans l'épicerie. Je trouve ça un petit peu complexe.
Ou dans les cafétérias d'école, effectivement. Ouais, tout
oui,
à fait.
Ouais. Que ça devienne la norme, là, qu'ils sont supposés manger ça, qu'on leur offre justement des yogourts qui sont dans des présentoirs un peu accommodés à leur goût.
Ben oui.
Mais en même temps, c'est le pire choix de yogourt que je peux faire dans mon allée d'épicerie. C'est un petit peu insensé pour moi.
Ben c'est vrai, ça. C'est intéressant parce que, tu sais, on parle beaucoup, on a parlé récemment... Des lois, la loi au Québec, la loi de la protection du consommateur, là, qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité aux enfants en bas de 13 ans, mais on a juste à se promener à l'épicerie, là, puis c'est comme...
Et dans le rayon des snacks.
Les céréales, tu sais, justement, là, tu sais, je veux dire, c'est des panneaux publicitaires, là, tu sais, les compagnies achètent des tablettes à la hauteur des yeux des enfants. À un moment donné, bonne chance, le parent.
Moi, dernièrement, j'ai dit, OK, à ma dernière ado à la maison, j'ai dit, là, on rentre plus de snacks pas santé.
Mm-hmm.
Tu sais, notion de snack et santé, ça va pas forcément ensemble. Fait que du coup, il y a pas de snack.
Ah ouais, c'est pas
sauf
compliqué.
Du céleri puis des carottes. Elle trouve ça un peu plate.
Ouais.
Fait que là, dernièrement, je me suis lâchée l'eau. Je devais avoir faim. Ou ça devait être vendredi 5 heures. J'ai ramené du snack dans des sacs. Mm-hmm. Si tu veux. Écoute, elle a passé 10 minutes dans le rayon. Elle avait l'impression que c'était Noël. Elle a dit, j'ai jamais vu autant de snacks depuis longtemps. Fait que tu vois que les enfants, puis c'est ce qu'Isabelle m'écrit, elle dit, moi, je tente de plus en plus de faire mes repas. Mais savez-vous ce qui est le plus difficile et décourageant, dit Isabelle? C'est que mes ados lèvent le nez parce que ça goûte pas bon ou ça goûte rien et se garochent, eux, sur les aliments hyper sucrés, salés, gras.
Oui.
L'industrie s'arrange pour les rendre accros et elle réussit. Elle veut des trucs. Lynn Gosselin, êtes-vous d'accord avec ça?
C'est souvent le commentaire qui revient. Et ce que je peux juste dire aux gens présentement, c'est que nous, dans le cadre du garage, justement, il y a la proposition qui a été faite par les entreprises, il y a 40% qui avait une réduction du taux de sucre, 30% de réduction du taux de sel, puis 25% de diminution du taux de gras saturé. Fait qu'on voit qu'il y a un changement qui est en train de se procurer. Tout n'est pas parfait, effectivement.
Ouais.
Il y a encore du travail à faire, mais c'est un mouvement qui est en train de se mettre en place.
D'ailleurs, donnez-nous les coordonnées pour aller sur votre site pour qu'on voit quelles sont ces entreprises là, qu'on doit encourager parce qu'elles font des efforts. Ça prend des efforts, ça prend de l'innovation alimentaire, ça prend des budgets aussi pour dire, OK, notre produit est tel, on va mettre un peu de fonds pour essayer de l'améliorer puis de proposer aux consommateurs quelque chose qui soit moins salé, moins sucré, moins gras, toujours aussi bon. Le goût, ça reste le numéro un. Là.
Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça.
Ouais.
Donne ton site, Lynn, mais je rajouterai après.
Puis d'ailleurs, Catherine a déjà gagné chez nous
pour
son livre.
Ouais,
c'est programmedux.com.
Programmedux.com.
Oui,
c'est très intéressant, justement, d'aller voir les produits qui se retrouvent sur le site.
Bien, merci beaucoup. On va être toujours à l'affût comme consommateur. Moi, j'aime bien parler de ces sujets-là parce que je trouve que ça fait... Bon, tu sais, manger, là, c'est comme respirer.
On fait tous ça.
Voilà,
oui,
c'est
voilà.
Ça. Puis il y en a plus que 3 fois par jour, d'ailleurs. merci beaucoup, Lynn Gosselin, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci bien.
Merci à vous deux.
Co-fondatrice du mouvement Dux, vise le mieux manger, le mieux vivre. On aime ça. Catherine Lefebvre, tu viendras nous reparler de ton livre.
Dans quelques semaines, je reviens.
Oui,
avec plaisir.
Merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Notre prochain sujet est aussi connexe parce qu'on va parler de jardinage. Pardon, vous dites, voyons, elle est dans le champ. Il y a de la neige dehors. Là, on parle de jardin. Oui, les amis, tout de suite après.